Chapitre 11. Pendant que toute la famille réunie essayait de prêcher le mariage au maréchal et que Lisbeth revenait rue Vaneau, il y arrivait un de ces événements qui stimulent chez les femmes comme Madame Marneffe l'énergie du vice en les obligeant à déployer toutes les ressources de la perversité. Reconnaissons au moins ce fait constant. À Paris, la vie est trop occupée pour que les gens vicieux fassent le mal par instinct. Ils se défendent à l'aide du vice contre les agressions, voilà tout. Madame Marneffe, dont le salon était rempli de ses fidèles, avait mis les parties de whist en train lorsque le valet de chambre, un militaire retraité racolé par le baron, annonça « Monsieur le baron Montes de Montejanos ». Valérie reçut au cœur une violente commotion, mais elle s'élança vivement vers la porte en criant « Mon cousin !» Et, arrivée au Brésilien, elle lui glissa dans l'oreille ce mot « Sois mon parent ou tout est fini entre nous !»« Eh bien » reprit-elle à haute voix en amenant le Brésilien à la cheminée. « Henri, tu n'as donc pas fait naufrage comme on me l'a dit. Je t'ai pleuré 3 ans. »« Bonjour, mon ami !» dit M. Marneffe en tendant la main au Brésilien, dont la tenue était celle d'un vrai Brésilien millionnaire. M. le baron Henri Montes de Montejanos, doué par le climat équatorial du physique et de la couleur que nous prêtons tous à l'Othello du théâtre, effrayé par un air sombre et fait purement plastique, car son caractère, plein de douceur et de tendresse, le prédestiné à l'exploitation que les faibles femmes pratiquent sur les hommes forts. Le dédain qu'exprimait sa figure, la puissance musculaire dont témoignait sa taille bien prise, toutes ses forces ne se déployaient qu'envers les hommes, flatterie adressée aux femmes et qu'elles savourent avec tant d'ivresse que les gens qui donnent le bras à leur maîtresse ont tous des airs de matamores tout à fait réjouissants. Superbement dessiné par un habit bleu à boutons en or massif, par un pantalon noir, chaussé de bottes fines d'un vernis irréprochable, ganté selon l'ordonnance, le baron n'avait de Brésilien qu'un gros diamant d'environ 100 000 francs qui brillait comme une étoile sur une somptueuse cravate de soie bleue, encadrée par un gilet blanc entrouvert de manière à laisser voir une chemise de toile d'une finesse fabuleuse. Le front, busqué comme celui d'un satyre, signe d'entêtement dans la passion, était surmonté d'une chevelure de jais, touffue comme une forêt vierge, sous laquelle scintillaient 2 yeux clairs, fauves à faire croire que la mère du baron avait eu peur, étant grosse de lui, de quelque jaguar. Ce magnifique exemplaire de la race portugaise au Brésil se campa le dos à la cheminée dans une pose qui décelait des habitudes parisiennes. Et, le chapeau d'une main, le bras appuyé sur le velours de la tablette, il se pencha vers Madame Marneffe pour causer à voix basse avec elle, en se souciant fort peu des affreux bourgeois qui, dans son idée, encombraient mal à propos le salon. Cette entrée en scène, cette pose et l'air du Brésilien déterminèrent 2 mouvements de curiosité mêlés d'angoisse, identiquement pareils chez Crevel et chez le baron. Ce fut chez tous les deux la même expression, le même pressentiment. Aussi la manœuvre inspirée à ces 2 passions réelles devint-elle si comique par la simultanéité de cette gymnastique qu'elle fit sourire les gens d'assez d'esprit pour y voir une révélation. Crevel, toujours bourgeois et boutiquier en diable, quoique maire de Paris, resta malheureusement en position plus longtemps que son collaborateur et le baron put saisir au passage la révélation involontaire de Crevel. Ce fut un trait de plus dans le cœur du vieillard amoureux qui résolut d'avoir une explication avec Valérie. « Ce soir, se dit également Crevel en arrangeant ses cartes, il faut en finir. » « Vous avez du cœur !» lui cria Marneffe, « et vous venez d'y renoncer. »« Ah, pardon !» répondit Crevel en voulant reprendre sa carte. « Ce baron-là me semble de trop » continuait-il en se parlant à lui-même. « Que Valérie vive avec mon baron à moi, c'est ma vengeance, et je sais le moyen de m'en débarrasser, mais ce cousin-là, c'est un baron de trop. Je ne veux pas être jobardé. Je veux savoir de quelle manière il est son parent. » Ce soir-là, par un de ces bonheurs qui n'arrivent qu'aux jolies femmes, Valérie était délicieusement mise. Sa blanche poitrine étincelait, serrée dans une guipure dont les tons roux faisaient valoir le satin mat de ces belles épaules des Parisiennes qui savent, par quel procédé on l'ignore, avoir de belles chairs et rester sveltes. Vêtue d'une robe de velours noir qui semblait à chaque instant près de quitter ses épaules, elle était coiffée en dentelles mêlées à des fleurs à grappes. Ses bras, à la fois mignons et potelés, sortaient de manches à sabots fourrés de dentelles. Elle ressemblait à ces beaux fruits coquettement arrangés dans une belle assiette et qui donnent des démangeaisons à l'acier du couteau. « Valérie, disait le Brésilien à l'oreille de la jeune femme, je te reviens fidèle. Mon oncle est mort, et je suis deux fois plus riche que je ne l'étais à mon départ. Je veux vivre et mourir à Paris, près de toi et pour toi. Plus bas, Henri, de grâce. Ah, bah, dussé-je jeter tout ce monde par la croisée, je veux te parler ce soir, surtout après avoir passé deux jours à te chercher. Je resterai le dernier, n'est-ce pas ? » Valérie sourit à son prétendu cousin et lui dit « Songez que vous devez être le fils d'une sœur de ma mère qui, pendant la campagne de Junot en Portugal, aurait épousé votre père. Moi, Montes de Montejanos, arrière-petit-fils d'un des conquérants du Brésil, mentir ! Plus bas, où nous ne nous reverrons jamais. Et pourquoi ? Marnef a pris, comme tous les mourants qui chaussent tous un dernier désir, une passion pour moi. « Ce laquais, dit le Brésilien qui connaissait son Marnef, je le payerai. Quelle violence ! Ah ça, d'où te vient ce luxe ? Dit le Brésilien qui finit par apercevoir les somptuosités du salon. Elle se mit à rire. « Quel mauvais temps, Henri ! Dit-elle. Elle venait de recevoir deux regards enflammés de jalousie qui l'avaient atteinte au point de l'obliger à regarder les deux âmes en peine. Crevel, qui jouait contre le baron et M. Coquet, avait pour partner M. Marnef. La partie fut égale à cause des distractions respectives de Crevel et du baron, qui accumulèrent faute sur faute. Les deux vieillards amoureux avouèrent, en un moment, la passion que Valérie avait réussi à leur faire cacher depuis 3 ans, mais elle n'avait pas su non plus éteindre dans ses yeux le bonheur de revoir l'homme qui, le premier, lui avait fait battre le cœur, l'objet de son premier amour. Les droits de ces heureux mortels vivent autant que la femme sur laquelle ils les ont pris. Entre ces trois passions absolues, l'une appuyée sur l'insolence de l'argent, l'autre sur le droit de la possession, la dernière sur la jeunesse, la force, la fortune et la primauté, Madame Marnef resta calme et l'esprit libre, comme le fut le général Bonaparte, lorsqu'au siège de Mantoue, il eut à répondre à deux armées en voulant continuer le blocus de la place. La jalousie, en jouant dans la figure de Hulot, le rendit aussi terrible que feu le maréchal Montcornet partant pour une charge de cavalerie sur un carré russe. En sa qualité de bel homme, le conseiller d'État n'avait jamais connu la jalousie, de même que Murat ignorait le sentiment de la peur. Il s'était toujours cru certain du triomphe. Son échec auprès de Josepha, le premier de sa vie, il l'attribuait à la soif de l'argent. Il se disait vaincu par 1 million et non par un avorton, en parlant du duc d'Hérouville. Les filtres et les vestiges que verse à torrents ce sentiment fou venaient de couler dans son cœur en un instant. Il se retournait de sa table de whist vers la cheminée par des mouvements à la Mirabeau. Et quand il laissait ses cartes pour embrasser par un regard provocateur le Brésilien et Valérie, les habitués du salon éprouvaient cette crainte mêlée de curiosité qu'inspire une violence menaçant d'éclater de moment en moment. Le faux cousin regardait le conseiller d'État comme il eût examiné quelque grosse potiche chinoise. Cette situation ne pouvait durer sans aboutir à un éclat affreux. Marneff craignait le baron Hulot autant que Crevel redoutait Marneff, car il ne se souciait pas de mourir sous chef. Les moribonds croient à la vie comme les forçats à la liberté. Cet homme voulait être chef de bureau à tout prix. Justement effrayé de la pantomime de Crevel et du conseiller d'État, il se leva, dit un mot à l'oreille de sa femme, et au grand étonnement de l'assemblée, Valérie passa dans sa chambre à coucher avec le Brésilien et son mari.
« Madame Marneff, vous a-t-elle jamais parlé de ce cousin-là ? » demanda Crevel au baron Hulot.
« Jamais, répondit le baron en se levant.
« Assez pour ce soir, ajouta-t-il. Je perds 2 louis, les voici. »
Il jeta 2 pièces d'or sur la table et alla s'asseoir sur le divan d'un air que tout le monde interpréta comme un avis de s'en aller. Monsieur et madame Coquet, après avoir échangé 2 mots, quittèrent le salon, et Claude Vignon, au désespoir, les imita. Ces 2 sorties entraînèrent les personnes inintelligentes qui se virent de trop. Le baron et Crevel restèrent seuls, sans se dire un mot. Hulot, qui finit par ne plus apercevoir Crevel, alla sur la pointe des pieds écouter à la porte de la chambre, et il fit un bond prodigieux en arrière, car M. Marneff ouvrit la porte, se montra le front serein, et parut étonné de ne trouver que 2 personnes. « Et le thé ? » dit-il. « Où est donc Valérie ? » répondit le baron, furieux.
« Ma femme ? » réplique Marneff. « Mais elle est montée chez mademoiselle votre cousine. Elle va revenir. »«
Et pourquoi nous a-t-elle planté là pour cette stupide chèvre ?»«
Mais, dit Marneff, mademoiselle Lisbeth est arrivée de chez madame la baronne votre femme avec une espèce d'indigestion, et Mathurine a demandé du thé à Valérie, qui vient d'aller voir ce qu'a mademoiselle votre cousine. »«
Et le cousin ? Il est parti. »«
Vous croyez cela ? » dit le baron.
« Je l'ai mise en voiture, » répondit Marneff avec un affreux sourire. Le roulement d'une voiture se fit entendre dans la rue Vanneau. Le baron, comptant Marneff pour 0, sortit et monta chez Lisbeth. Il lui passait dans la cervelle une de ces idées qui envoient le cœur quand il est incendié par la jalousie. La bassesse de Marneff lui était si connue qu'il supposa d'ignoble connivence entre la femme et le mari.
« Que sont donc devenus ces messieurs et dames ?» demanda Marneff en se voyant seul avec Crevel.
« Quand le soleil se couche, la basse cour en fait autant, » répondit Crevel. « Madame Marneff a disparu, ses adorateurs sont partis. Je vous propose un piquet, » ajouta Crevel, qui voulait rester.
Lui aussi, il croyait le Brésilien dans la maison. Monsieur Marneff accepta. Le maire était aussi fin que le baron. Il pouvait demeurer au logis indéfiniment en jouant avec le mari qui, depuis la suppression des jeux publics, se contentait du jeu rétréci, mesquin, du monde. Le baron Hulot monta rapidement chez sa cousine Bette, mais il trouva la porte fermée et les demandes d'usage à travers la porte employèrent assez de temps pour permettre à des femmes alertes et rusées de disposer le spectacle d'une indigestion gorgée de thé. Lisbeth souffrait tant qu'elle inspirait les craintes les plus vives à Valérie. Aussi Valérie fit-elle à peine attention à la rageuse entrée du baron. La maladie est un des paravents que les femmes mettent le plus souvent entre elles et l'orage d'une querelle. Hulot regarda partout à la dérobée, et il n'aperçut dans la chambre à coucher de la cousine Bette aucun endroit propre à cacher un Brésilien.
« Ton indigestion, Bette, fait honneur au dîner de ma femme, » dit-il en examinant la vieille fille qui se portait à merveille et qui tâchait d'imiter le râle des convulsions d'estomac en buvant du thé.
« Voyez comme il est heureux que notre chère Bette soit logée dans ma maison. Sans moi, la pauvre fille expirait, » dit madame Marneff.
« Vous avez l'air de me croire au mieux, » reprit Lisbeth en s'adressant au baron. « Et ce serait une infamie. »
« Pourquoi ? » demanda le baron. « Vous savez donc la raison de ma visite ?» Et il guigna à la porte d'un cabinet de toilette, d'où la clé était retirée. « Parlez-vous grec ? » répondit madame Marneff, avec une expression déchirante de tendresse et de fidélité méconnue.
« Mais c'est pour vous, mon cher cousin ! Oui, c'est par votre faute que je suis dans l'état où vous me voyez !» dit Lisbeth avec énergie. Ce cri détourna l'attention du baron qui regarda la vieille fille dans un étonnement profond.
« Vous savez si je vous aime, » reprit Lisbeth. « Je suis ici, c'est tout dire. J'y use les dernières forces de ma vie à veiller vos intérêts en veillant à ceux de notre chère Valérie. Sa maison lui coûte 10 fois moins cher qu'une autre maison qu'on voudrait tenir comme la sienne. Sans moi, mon cousin, au lieu de 2 000 francs par mois, vous seriez forcé d'en donner 3 ou 4 000.
Je sais tout cela, répondit le baron impatienté.
Vous nous protégez de bien des manières, ajouta-t-il en revenant auprès de Madame Marneffe et la prenant par le cou. N'est-ce pas, ma chère petite belle?
Ma parole, dit Valérie, je vous crois fou.
Eh bien, vous ne doutez pas de mon attachement, reprit Lisbeth. Mais j'aime aussi ma cousine Adeline, et je l'ai trouvée en larmes. Elle ne vous a pas vue depuis 1 mois. Non, cela n'est pas permis. Vous laissez ma pauvre Adeline sans argent. Votre fille, Hortense, a failli mourir en apprenant que c'est grâce à votre frère que nous avons pu dîner. Il n'y avait pas de pain chez vous aujourd'hui. Adeline a pris la résolution héroïque de se suffire à elle-même. Elle m'a dit « Je ferai comme toi ». Ce mot m'a si fort serré le cœur après le dîner qu'en pensant à ce que ma cousine était en 1811 et ce qu'elle est en 1841, 30 ans après, j'ai eu ma digestion arrêtée. J'ai voulu vaincre le mal, mais arrivé ici, j'ai cru mourir.
« Vous voyez, Valérie, dit le baron, jusqu'où me mène mon adoration pour vous, à commettre des crimes domestiques. »«
Ah, j'ai eu raison de rester fille, s'écria Lisbeth avec une joie sauvage. Vous êtes un bon et excellent homme, Adeline est un ange, et voilà la récompense d'un dévouement aveugle. »
« Un vieil ange, dit doucement Madame Marneffe, en jetant un regard moitié tendre, moitié rieur à son Hector, qui la contemplait comme un juge d'instruction examine un prévenu.
« Pauvre femme, dit le baron, voilà plus de 9 mois que je ne lui ai remis d'argent, et j'en trouve pour vous, Valérie, et à quel prix? Vous ne serez jamais aimée ainsi par personne, et quel chagrin vous me donnez en retour?
« Des chagrins ? Reprit-elle. Qu'appelez-vous donc le bonheur ?
« Je ne sais pas encore quelles ont été vos relations avec ce prétendu cousin, de qui vous ne m'avez jamais parlé, » reprit le baron, sans faire attention aux mots jetés par Valérie. « Mais quand il est entré, j'ai reçu comme un coup de canif dans le cœur. Quelque aveuglé que je sois, je ne suis pas aveugle. J'ai lu dans vos yeux et dans les siens. Enfin, il s'échappait par les paupières de ce singe des étincelles qui rejaillissaient sur vous. Dans le regard. Oh, vous ne m'avez jamais regardé ainsi, jamais! Quant à ce mystère, Valérie, il se dévoilera. Vous êtes la seule femme qui m'ayez fait connaître le sentiment de la jalousie. Ainsi, ne vous étonnez pas de ce que je vous dis. Mais un autre mystère qui a crevé son nuage et qui me semble une infamie.
Allez, allez, dit Valérie.
C'est que Crevel, ce cube de chair et de bêtises, vous aime, et que vous accueillez ses galanteries assez bien pour que se nier et laisser voir sa passion à tout le monde.
« Et de 3, vous n'en apercevez pas d'autres ?» demanda Madame Marneffe.
« Peut-être y en a-t-il, » dit le baron.
« Que Monsieur Crevel m'aime, il est dans son droit d'homme. Que je sois favorable à sa passion, ce serait le fait d'une coquette ou d'une femme à qui vous laisseriez beaucoup de choses à désirer. » « Eh bien, aimez-moi avec mes défauts, ou laissez-moi. Si vous me rendez ma liberté, ni vous, ni Monsieur Crevel, vous ne reviendrez ici. Je prendrai mon cousin pour ne pas perdre les charmantes habitudes que vous me supposez. Adieu, Monsieur le Baron Hulot !» Et elle se leva, mais le conseiller d'État la saisit par le bras et la fit asseoir. Le vieillard ne pouvait plus remplacer Valérie. Elle était devenue un besoin plus impérieux pour lui que les nécessités de la vie, et il aima mieux rester dans l'incertitude que d'acquérir la plus légère preuve de l'infidélité de Valérie. « Ma chère Valérie, dit-il, ne vois-tu pas ce que je souffre? Je ne te demande que de te justifier. Donne-moi de bonnes raisons. Eh bien, allez m'attendre en bas, car vous ne voulez pas assister, je crois, aux différentes cérémonies que nécessite l'état de votre cousine. »
Hulot se retira lentement.
« Quel vieux libertin ! » s'écria la cousine bête. « Vous ne me demandez donc pas des nouvelles de vos enfants ? Que ferez-vous pour Adeline ? Moi, d'abord, je lui porte demain mes économies. »
« On doit au moins le pain de froment à sa femme, » dit en souriant Madame Marneffe.
Le baron, sans s'offenser du ton de Lisbeth, qui le régentait aussi durement que Josepha, s'en alla comme un homme enchanté d'éviter une question importune. Une fois le verrou mis, le Brésilien quitta le cabinet de toilette où il attendait, et il parut, les yeux pleins de larmes, dans un état à faire pitié. Montès avait évidemment tout entendu.
Tu ne m'aimes plus, Henri, je le vois, dit Madame Marneffe en se cachant le front dans son mouchoir et fondant en larmes.
C'était le cri de l'amour vrai. La clameur du désespoir de la femme est si persuasive qu'elle arrache le pardon qui se trouve au fond du cœur de tous les amoureux quand la femme est jeune, jolie et décolletée à sortir par le haut de sa robe en costume d'Ève.
Mais pourquoi ne quittez-vous pas tout pour moi, si vous m'aimez ?
Demanda le Brésilien. Ce naturel de l'Amérique, logique comme le sont tous les hommes nés dans la nature, reprit aussitôt la conversation au point où il l'avait laissée, en reprenant la taille de Valérie.
Pourquoi ? Dit-elle en relevant la tête et regardant Henri qu'elle domina par un regard chargé d'amour. « Mais, mon petit chat, je suis mariée, mais nous sommes à Paris, et non dans les savanes, dans les pampas, dans les solitudes de l'Amérique. Mon bon Henri, mon premier et mon seul amour, écoute-moi donc. Ce mari, simple sous-chef au ministère de la guerre, veut être chef de bureau et officier de la Légion d'honneur. Puis-je l'empêcher d'avoir de l'ambition ? Or, pour la même raison qu'il nous laissait entièrement libres tous les deux, il y a bientôt 4 ans, t'en souviens-tu, méchant ? Aujourd'hui, Marneffe m'impose, monsieur Hulot. Je ne puis me défaire de cet affreux administrateur qui souffle comme un phoque, qui a des nageoires dans les narines, qui a 63 ans, qui depuis 3 ans s'est vieilli de 10 ans à vouloir rester jeune, qui m'est odieux. Que le lendemain du jour où Marneffe sera chef de bureau et officier de la Légion d'honneur.
Qu'est-ce qu'il aura de plus, ton mari ?
1000 écus.
Je les lui donnerai viagèrement, reprit le baron Montès. Quittons Paris et allons.
Où ? Dit Valérie en faisant une de ces jolies moues par lesquelles les femmes narguent les hommes dont elles sont sûres. Paris est la seule ville où nous puissions vivre heureux. Je tiens trop à ton amour pour le voir s'affaiblir en nous trouvant seuls dans un désert. Écoute, Henri, tu es le seul homme aimé de moi dans l'univers. Écris cela sur ton crâne de tigre.
Les femmes persuadent toujours aux hommes de qui elles ont fait des moutons qu'ils sont des lions et qu'ils ont un caractère de fer.
Maintenant, écoute-moi bien. Monsieur Marneffe n'a pas 5 ans à vivre. Il est gangrené jusque dans la moelle de ses os. Sur 12 mois de l'année, il en passe 7 à boire des drogues, des tisanes. Il vit dans la flanelle. Enfin, il est, dit le médecin, sous le coup de la faux à tout moment. La maladie la plus innocente pour un homme sain sera mortelle pour lui. Le sang est corrompu. La vie est attaquée dans son principe. Depuis 5 ans, je n'ai pas voulu qu'il m'embrassât une seule fois. Car cet homme, c'est la peste. Un jour, et ce jour n'est pas éloigné, je serai veuve. Eh bien, moi déjà demandée par un homme qui possède 60 000 francs de rente, moi qui suis maîtresse de cet homme, comme de ce morceau de sucre, je te déclare que tu serais pauvre comme Hulot, lépreux comme Marneffe, et que si tu me battais, c'est toi que je veux pour mari, toi seul que j'aime. De qui je veuille porter le nom, et je suis prête à te donner tous les gages d'amour que tu voudras.
Eh bien, ce soir.
Mais, enfant de Rio, mon beau jaguar sorti pour moi des forêts vierges du Brésil, dit-elle en lui prenant la main et la baisant et le caressant. « Respecte donc un peu la créature de qui tu veux faire ta femme. Serais-je ta femme, Henri ?»«
Oui, » dit le Brésilien, vaincu par le bavardage effréné de la passion. Et il se mit à genoux.
« Voyons, Henri, » dit Valérie en lui prenant les deux mains et le regardant au fond des yeux avec fixité. « Tu me jures, ici, en présence de Lisbeth, ma meilleure et ma seule amie, ma sœur, de me prendre pour femme au bout de mon année de veuvage.
Je te jure.
Ce n'est pas assez. Jure par les cendres et le salut éternel de ta mère. Jure-le par la Vierge Marie et par tes espérances de catholique.
Valérie savait que le Brésilien tiendrait ce serment quand même elle serait tombée au fond du plus sale bourbier social. Le Brésilien et ce serment solennel, le nez presque touchant à la blanche poitrine de Valérie, et les yeux fascinés, il était ivre, comme on est ivre en revoyant une femme aimée après une traversée de 120 jours.
« Eh bien, maintenant, sois tranquille. Respecte bien dans Madame Marneff la future baronne de Monterranos. Ne dépense pas un liard pour moi, je te le défends. Reste ici, dans la première pièce, couché sur le petit canapé. Je viendrai moi-même t'avertir quand tu pourras quitter ton poste. Demain matin, nous déjeunerons ensemble, et tu t'en iras sur les 1 heure, comme si tu étais venu me faire une visite à midi. Ne crains rien, les portiers m'appartiennent, comme s'ils étaient mon père et ma mère. Je vais descendre chez moi servir le thé. »
Elle fit signe à Lisbeth qui l'accompagna jusque sur le palier. Là, Valérie dit à l'oreille de la vieille fille.
« Ce moricaud est venu un an trop tôt, car je meurs si je ne te venge d'Hortense. »«
Sois tranquille, mon cher gentil petit démon, » dit la vieille fille en l'embrassant au front. « L'amour et la vengeance, chassant de compagnie, n'auront jamais le dessous. Hortense m'attend demain, elle est dans la misère. Pour avoir 1000 francs, Venceslas t'embrassera 1000 fois. »
En quittant Valérie, Hulot était descendu jusqu'à la loge et s'était montré subitement à Madame Olivier. Madame Olivier, en entendant cette interrogation impérieuse et voyant le geste par lequel le baron la commenta, Madame Olivier sortit de sa loge et alla jusque dans la cour à l'endroit où le baron l'emmena.
« Vous savez que si quelqu'un peut un jour faciliter à votre fils l'acquisition d'une étude, c'est moi. » « C'est grâce à moi que le voici 3e clerc de notaire et qu'il achève son droit. »«
Oui, monsieur le baron. Aussi, monsieur le baron peut-il compter sur notre reconnaissance. Il n'y a pas de jour que je ne prie Dieu pour le bonheur de monsieur le baron. »«
Pas tant de paroles, ma bonne femme, » dit Hulot, « mais des preuves. »«
Que faut-il faire ?» demanda madame Olivier.
« Un homme en équipage est venu ce soir. Le connaissez-vous ?»
Madame Olivier avait bien reconnu le Montès, comment l'aurait-elle oublié? Montès lui glissait, rue du Doyenné, 100 sous dans la main toutes les fois qu'il sortait, le matin de la maison un peu trop tôt.
Si le baron s'était adressé à monsieur Olivier, peut-être aurait-il appris tout.
Mais Olivier dormait. Dans les classes inférieures, la femme est non seulement supérieure à l'homme, mais encore elle le gouverne presque toujours. Depuis longtemps, Madame Olivier avait pris son parti dans le cas d'une collision entre ces deux bienfaiteurs. Elle regardait Madame Marneff comme la plus forte de ces deux puissances.
« Si je le connais ?» répondit-elle. « Non, ma foi, non, je ne l'ai jamais vu. »
« Comment ? Le cousin de Madame Marneff ne venait jamais la voir quand elle demeurait rue du Doyenné ?»«
Ah, c'est son cousin !» s'écria Madame Olivier. « Il est peut-être venu, mais je ne l'ai pas reconnu. » La première fois, monsieur, je ferai bien attention.
Il va descendre, dit Hulot vivement, en coupant la parole à Madame Olivier.
Mais il est parti, répliqua Madame Olivier, qui comprit tout. La voiture n'est plus là.
Vous l'avez vu partir?
Comme je vous vois, il a dit à son domestique, à l'ambassade.
Ce ton, cette assurance, attachèrent un soupir de bonheur au baron. Il prit la main à Madame Olivier et la lui serra.
« Merci, ma chère Madame Olivier, mais ce n'est pas tout. Et Monsieur Crevel ?»«
Monsieur Crevel ?
Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas, dit Madame Olivier. Écoutez-moi bien. Il aime Madame Marneffe.
Pas possible, monsieur le baron, pas possible, dit-elle en joignant les mains.
Il aime Madame Marneffe, répéta fort impérativement le baron. Comment font-ils? Je n'en sais rien. Mais je veux le savoir, et vous le saurez. Si vous pouvez me mettre sur les traces de cette intrigue, votre fils sera notaire.
Monsieur le baron, ne vous mangez pas les sangs comme ça, reprit Madame Olivier. Madame vous aime, et n'aime que vous. Sa femme de chambre le sait bien, et nous disons comme cela que vous êtes l'homme le plus heureux de la terre, car vous savez tout ce que vaut madame. Ah, c'est une perfection. Elle se lève à 10 heures tous les jours. Pour lors, elle déjeune, bon. Eh bien, elle en a pour 1 heure à faire sa toilette, et tout ça l'amène à 2 heures. Pour lors, elle va se promener aux Tuileries, au vu et au su de tout le monde. Elle est toujours rentrée à 4 heures, pour l'heure de votre arrivée. Oh, c'est réglé comme une pendule. Elle n'a pas de secret pour sa femme de chambre, reine n'en a pas pour moi. Allez, reine ne peut pas n'en avoir, rapport à mon fils, pour qu'elle ne l'a des bontés. Vous voyez bien que si madame avait des rapports avec monsieur Crevel, nous le saurerions.
Le baron remonta chez madame Marneffe le visage rayonnant et convaincu d'être le seul homme aimé de cette affreuse courtisane, aussi décevante, mais aussi belle, aussi gracieuse qu'une sirène. Crevel et Marneffe commençaient un second piquet. Crevel perdait, comme perdent tous les gens qui ne sont pas à leur jeu. Marneffe, qui savait la cause des distractions du maire, en profitait sans scrupule. Il regardait les cartes à prendre, il écartait en conséquence. Puis, voyant dans le jeu de son adversaire, il jouait à coup sûr. Le prix de la fiche étant de 20 sous, il avait déjà volé 30 francs au maire au moment où le baron rentrait.
« Eh bien, dit le conseiller d'État, étonné de ne trouver personne, vous êtes seul? Où sont-ils tous?
Votre belle humeur a mis tout le monde en fuite, répondit Crevel.
Non, c'est l'arrivée du cousin de sa femme, répliqua Marneffe.
Ces belles dames et ces messieurs ont pensé que Valérie et Henri devaient avoir quelque chose à se dire après une séparation de 3 années, et ils se sont discrètement retirés. Si j'avais été là, je les aurais retenus, mais par aventure, j'aurais mal fait, car l'indisposition de Lisbeth, qui sert toujours le thé, sur les 10h30, a mis tout en déroute.
« Lisbeth est donc réellement indisposée ? » demanda Crevel, furieux.
« On me l'a dit, » répliqua Marneffe, avec l'immorale insouciance des hommes pour qui les femmes n'existent plus. Le maire avait regardé la pendule, et à cette estime, le baron paraissait avoir passé 40 minutes chez Lisbeth. L'air joyeux de Hulot incriminait gravement Hector, Valérie et Lisbeth.
« Je viens de la voir, elle souffle horriblement, la pauvre fille, » dit le baron.
« La souffrance des autres fait donc votre joie, mon cher ami, » reprit aigrement Crevel, « car vous nous revenez avec une figure où la jubilation rayonne. Est-ce que Lisbeth est en danger de mort? Votre fille hérite d'elle, dit-on. Vous ne vous ressemblez plus. Vous êtes parti avec la physionomie du mort de Venise, et vous revenez avec celle de Saint-Preux. Je voudrais bien voir la figure de Madame Marneffe.
Qu'entendez-vous par ces paroles ? Demanda Monsieur Marneffe à Crevel, en rassemblant ses cartes et les posant devant lui. Les yeux éteints de cet homme décrépit à 47 ans s'animèrent. De pâles couleurs nuancèrent ses joues flasques et froides. Il entr'ouvrit sa bouche démeublée aux lèvres noires, sur lesquelles il vint une espèce d'écume blanche comme de la craie, et caséiforme. Cette rage d'un homme impuissant, dont la vie tenait à un fil, et qui, dans un duel, n'eût rien risqué là où Crevel eût eu tout à perdre, effraya le maire.
« Je dis, répondit Crevel, que j'aimerais avoir la figure de Madame Marneffe, et j'ai d'autant plus raison que la vôtre en ce moment est fort désagréable. Parole d'honneur, vous êtes horriblement laid, mon cher Marneffe. Savez-vous que vous n'êtes pas poli? Un homme qui gagne 30 francs en 45 minutes ne me paraît jamais beau. »
Ah, si vous m'aviez vu, reprit le sous-chef, il y a 17 ans.
Vous étiez gentil, répliqua Crevel.
C'est ce qui m'a perdu,
Si j'avais été comme vous, je serais père et mère. »
Oui, dit en souriant Crevel, vous avez trop fait la guerre. Et des deux métaux que l'on gagne à cultiver le dieu du commerce, vous avez pris le mauvais, la drogue.
Et Crevel éclata de rire. Si Marneff se fâchait à propos de son honneur en péril, il prenait toujours bien ses vulgaires et ignobles plaisanteries. Elles étaient comme la petite monnaie de la conversation entre Crevel et lui.
Ève me coûte cher, c'est vrai, mais ma foi, courte et bonne, voilà ma devise.
J'aime mieux longue et heureuse, répliqua Crevel.
Madame Marneff entra, vit son mari jouant avec Crevel et le baron, tous trois seuls dans le salon. Elle comprit, au seul aspect de la figure du dignitaire municipal, toutes les pensées qu'il avait agitées. Son parti fut aussitôt pris.
« Marneff, mon chat !» dit-elle en venant s'appuyer sur l'épaule de son mari et passant ses jolis doigts dans des cheveux d'un vilain gris sans pouvoir couvrir la tête en les ramenant. « Il est bien tard pour toi, tu devrais t'aller coucher. Tu sais que demain il faut te purger, le docteur l'a dit, et Reine te fera prendre du bouillon aux herbes dès 7 heures. Si tu veux vivre, laisse-la ton piquet. »
« Faisons-le en 5 marqués ?» demanda Marneff à Crevel.
« Bien, j'en ai déjà 2, » répondit Crevel.
« Combien cela durera-t-il ? » demanda Valérie.
« 10 minutes, » répliqua Marneff.
« Il est déjà 11 heures, » répondit Valérie. « Et vraiment, monsieur Crevel, on dirait que vous voulez tuer mon mari. Dépêchez-vous au moins !»
Cette rédaction à double sens fit sourire Crevel, Hulot et Marneff lui-même. Valérie alla causer avec son Hector.
« Sors, mon chéri, » dit Valérie à l'oreille d'Hector. « Promène-toi dans la rue Vanneau. Tu reviendras lorsque tu verras sortir Crevel. »
« J'aimerais mieux sortir de l'appartement, rentrer dans ta chambre par la porte du cabinet de toilette. Tu pourrais dire à Reine de me l'ouvrir. »«
Reine est là-haut à soigner Lisbeth. »
« Eh bien, si je remontais chez Lisbeth. »
Tout était en péril pour Valérie, qui, prévoyant une explication avec Crevel, ne voulait pas Hulot dans sa chambre, où il pourrait tout entendre. Et le Brésilien attendait chez Lisbeth.
« Vraiment, vous autres hommes, » dit Valérie à Hulot, « quand vous avez une fantaisie, vous brûleriez les maisons pour y entrer. Lisbeth est dans un état à ne pas vous recevoir. Craignez-vous d'attraper un rhume dans la rue ? Allez-y, ou bonsoir !»«
Adieu, messieurs !» dit le baron à haute voix.
Une fois attaqué dans son amour-propre de vieillard, Hulot tint à prouver qu'il pouvait faire le jeune homme en attendant l'heure du berger dans la rue, et il sortit. Marneff dit bonsoir à sa femme, à qui, par une démonstration de tendresse apparente, il prit les bras. Valérie serra d'une façon significative la main de son mari, ce qui voulait dire
« Débarrasse-moi donc de Crevel !»
« Bonne nuit, Crevel !» dit alors Marneff.
« J'espère que vous ne resterez pas longtemps avec Valérie. Ah, je suis jaloux. Ça m'a pris tard, mais ça me tient. Et je viendrai voir si vous êtes parti. »
« Nous avons à causer d'affaires, mais je ne resterai pas longtemps, » dit Crevel.
« Parlez bas, que me voulez-vous ? »
dit Valérie sur 2 tons, en regardant Crevel avec un air où la hauteur se mêlait au mépris. En recevant ce regard hautain, Crevel, qui rendait d'immenses services à Valérie et qui voulait s'en targuer, redevint humble et soumis.
« Ce Brésilien !»
Crevel, épouvanté par le regard fixe et méprisant de Valérie, s'arrêta.
« Après, » dit-elle.
« Ce cousin !»«
Ce n'est pas mon cousin, » reprit-elle.
« C'est mon cousin pour tout le monde et pour Monsieur Marneff. Ce serait mon amant que vous n'auriez pas un mot à dire. Un boutiquier qui achète une femme pour se venger d'un homme est au-dessous, dans mon estime, que celui qui l'achète par amour. Vous n'étiez pas épris de moi. Vous avez vu en moi la maîtresse de Monsieur Hulot, et vous m'avez acquise comme on achète un pistolet pour tuer son adversaire. J'avais faim, j'ai consenti.
« Vous n'avez pas exécuté le marché, » répondit Crevel, redevenant commerçant.
« Ah, vous voulez que le baron Hulot sache bien que vous lui prenez sa maîtresse pour avoir votre revanche de l'enlèvement de Josepha.
Rien ne me prouve mieux votre bassesse. Vous dites aimer une femme, vous la traitez de duchesse, et vous voulez la déshonorer. Tenez, mon cher, vous avez raison. Cette femme ne vaut pas Josepha. Cette demoiselle a le courage de son infamie, tandis que moi, je suis une hypocrite, qui devrais être fouettée en place publique. Hélas, Josepha se protège par son talent et par sa fortune. Mon seul rempart à moi, c'est mon honnêteté. Je suis encore une digne et vertueuse bourgeoise. Mais si vous faites un éclat, que deviendrai-je? Si j'avais la fortune encore, passe. Mais j'ai maintenant tout au plus 15 000 francs de rente, n'est-ce pas?
Beaucoup plus, dit Crevel. Je vous ai doublé depuis 2 mois vos économies dans l'Orléans.
Eh bien, la considération à Paris commence à 50 000 francs de rente. Vous n'avez pas à me donner la monnaie de la position que je perdrai. Que voulais-je? Faire nommer Marneff chef de bureau. Il aurait 6 000 francs d'appointement. Il a 27 ans de service. Dans 3 ans, j'aurai droit à 1 500 francs de pension, s'il mourait. Vous, comblé de bonté par moi, gorgé de bonheur, vous ne savez pas attendre. Et cela dit aimer, s'écria-t-elle.
Si j'ai commencé par un calcul, dit Crevel, depuis je suis devenu votre toutou. Vous me mettez les pieds sur le cœur, vous m'écrasez, vous m'abasourdissez, et je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Valérie, je vous aime autant que j'aime Célestine. Pour vous, je suis capable de tout. Tenez, au lieu de venir 2 fois par semaine rue du Dauphin, venez-y 3.
Rien que cela, vous rajeunissez, mon cher.
Laissez-moi renvoyer Hulot, l'humilier, vous en débarrasser, dit Crevel sans répondre à cette insolence. N'admettez plus ce Brésilien. Soyez tout à moi. Vous ne vous en repentirez pas. D'abord, je vous donnerai une inscription de 8 000 francs de rente, mais viagère. Je ne vous enjoindrai la nue propriété qu'après 5 ans de constance.
Toujours des marchés. Les bourgeois n'apprendront jamais à donner. Vous voulez vous faire des relais d'amour dans la vie avec des inscriptions de rente? Ah, boutiquier, marchand de pommade, tu étiquettes tout. Hector me disait que le duc d'Hérouville avait apporté 30 000 livres de rente à Josepha dans un cornet de dragée d'épicier. Je vaux 6 fois mieux que Josepha. Ah, être aimée, dit-elle en refrisant ses anglaises et allant se regarder dans la glace. Henri même, il vous tuerait comme une mouche à un signe de mes yeux. Hulot même, il met sa femme sur la paille. Allez, soyez bon père de famille, mon cher. Oh, vous avez, pour faire vos fredaines, 300 000 francs en dehors de votre fortune. Un magot, enfin, et vous ne pensez qu'à l'augmenter.
Pour toi, Valérie, car je t'en offre la moitié, dit-il en tombant à genoux.
Eh bien, vous êtes encore là, s'écria le hideux Marneff en robe de chambre. Que faites-vous? Il me demande pardon, mon ami, d'une proposition insultante qu'il vient de m'adresser. Ne pouvant rien obtenir de moi, monsieur inventait de m'acheter.
Crevel aurait voulu descendre dans la cave par une trappe, comme cela se fait au théâtre.
Relevez-vous, mon cher Crevel, dit en souriant Marneff. Vous êtes ridicule. Je vois à l'air de Valérie qu'il n'y a pas de danger pour moi. Va te coucher et dors tranquille, dit madame Marneff.
Est-elle spirituelle? Pensait Crevel. Elle est adorable. Elle me sauve.
Quand Marneff fut rentré chez lui, le maire prit les mains de Valérie et les lui baisa en y laissant la trace de quelques larmes.
Tout en ton nom, dit-il. Voilà aimé, lui répondit-elle bas à l'oreille. Eh bien, amour pour amour. Hulot est en bas, dans la rue. Ce pauvre vieux attend, pour venir ici, que je place une bougie à l'une des fenêtres de ma chambre à coucher. Je vous permets de lui dire que vous êtes le seul aimé. Jamais il ne voudra vous croire. Emmenez-le rue du Dauphin, donnez-lui des preuves, accablez-le. Je vous le permets, je vous l'ordonne. Ce phoque m'ennuie, il m'excède. Tenez bien votre homme rue du Dauphin pendant toute la nuit, assassinez-le à petit feu, « Vengez-vous de l'enlèvement de Josepha.
Hulot en mourra peut-être, mais nous sauverons sa femme et ses enfants d'une ruine effroyable. Madame Hulot travaille pour vivre.
Oh, la pauvre dame! Ma foi, c'est atroce!
S'écria Crevel, chez qui les bons sentiments naturels revinrent. Si tu m'aimes, Célestin, dit-elle tout bas à l'oreille de Crevel qu'elle effleura de ses lèvres, retiens-le, ou je suis perdue. Marnef a des soupçons. Hector a la clé de la porte cochère et compte revenir. Crevel serra Madame Marnef dans ses bras et sortit au comble du bonheur. Valérie l'accompagna tendrement jusqu'au palier, puis, comme une femme magnétisée, elle descendit jusqu'au premier étage, où elle alla jusqu'au bas de la rampe.
« Ma Valérie, remonte, ne te compromets pas aux yeux des portiers. Va, ma vie et ma fortune, tout est à toi. Rentre, ma duchesse. »«
Madame Olivier, cria doucement Valérie lorsque la porte frappa. « Comment, madame, vous ici ? » dit Madame Olivier stupéfaite. « Mettez les verrous en haut et en bas à la grande porte et n'ouvrez plus. Bien, madame. » Une fois les verrous tirés, Madame Olivier raconta la tentative de corruption que s'était permise le haut fonctionnaire à son égard. « Vous vous êtes conduite comme un ange, ma chère Madame Olivier, mais nous causerons de cela demain. » Valérie atteignit le troisième étage avec la rapidité d'une flèche, frappa trois petits coups à la porte de Lisbeth et revint chez elle où elle donna ses ordres à Mademoiselle Reine, car jamais une femme ne manque l'occasion d'un Montès arrivant du Brésil.
« Non, saperlotte, il n'y a que les femmes du monde pour savoir aimer ainsi !» se disait Crevel. Comme elle descendait l'escalier en l'éclairant de ses regards, je l'entraînai. Jamais Josépha !»« Josépha, c'est de la gnognotte !» cria l'ancien commis voyageur. « Qu'ai-je dit là, gnognotte ? Mon Dieu, je suis capable de lâcher cela quelques jours aux Tuileries. Non, si Valérie ne fait pas mon éducation, je ne puis rien être. Moi qui tiens tant à paraître grand seigneur. Ah, quelle femme ! Elle me remue autant qu'une colique quand elle me regarde froidement. Quelle grâce ! Quel esprit ! Jamais Josépha ne m'a donné de pareilles émotions. Et quelles perfections inconnues ! Ah bien, voilà mon homme !
Il apercevait, dans les ténèbres de la rue de Babylone, le grand Hulot, un peu voûté, se glissant le long des planches d'une maison en construction, et il alla droit à lui.
« Bonjour, baron, car il est plus de minuit, mon cher. Que diable faites-vous là ? Vous vous promenez par une jolie petite pluie fine. À nos âges, c'est mauvais. Voulez-vous que je vous donne un bon conseil ? Revenons chacun chez nous, car entre nous, vous ne verrez pas de lumière à la croisée. »
En entendant cette dernière phrase, le baron sentit qu'il avait 63 ans et que son manteau était mouillé.
« Qui donc a pu vous dire ? » demanda-t-il. « Valérie, parbleu, notre Valérie, qui veut être uniquement ma Valérie. Nous sommes manche à manche, baron. Nous jouerons la belle quand vous voudrez. Vous ne pouvez pas vous fâcher. Vous savez que le droit de prendre ma revanche a toujours été stipulé. Vous avez mis 3 mois à m'enlever Josépha. Moi, je vous ai pris Valérie en... Ne parlons pas de cela, reprit-il. Maintenant, je la veux tout à moi, mais nous n'en resterons pas moins bons amis.
Crevel, ne plaisante pas, répondit le baron d'une voix étouffée par la rage. C'est une affaire de vie ou de mort.
Tiens, comme vous prenez cela, baron, ne vous rappelez-vous plus ce que vous m'avez dit le jour du mariage d'Hortense ? Est-ce que deux roquetins comme nous doivent se brouiller pour une jupe ? C'est épicier, ces petites gens. Nous sommes, c'est convenu, régence, juste au corps bleu, Pompadour, 18e siècle, tout ce qu'il y a de plus maréchal de Richelieu, rocaille, et, j'ose le dire, liaison dangereuse.
Crevel aurait pu entasser ces mots littéraires pendant longtemps. Le baron écoutait comme écoutent les sourds dans le commencement de leur surdité. Voyant, à la lueur du gaz, le visage de son ennemi devenu blanc, le vainqueur s'arrêta. C'était un coup de foudre pour le baron, après les déclarations de Madame Olivier, après le dernier regard de Valérie.
« Mon Dieu,
Il y avait tant d'autres femmes dans Paris, s'écria-t-il enfin.
C'est ce que je t'ai dit quand tu m'as pris Josépha, répliqua Crevel.
Tenez, Crevel, c'est impossible. Donnez-moi des preuves. Avez-vous une clé comme moi pour entrer ? Et le baron, arrivé devant la maison, fourra une clé dans la serrure. Mais il trouva la porte immobile, et il essaya vainement de l'ébranler.
« Ne faites pas de tapage nocturne, » dit tranquillement Crevel. « Tenez, baron, j'ai, moi, de bien meilleures clés que les vôtres. »«
Des preuves !» répéta le baron, exaspéré par une douleur à devenir fou.
« Venez, je vais vous en donner, » répondit Crevel.
Et, selon les instructions de Valérie, il entraîna le baron vers le quai par la rue Hillerin-Bertin. L'infortuné conseiller d'État allait, comme vont les négociants la veille du jour où ils doivent déposer leur bilan. Il se perdait en conjectures sur les raisons de la dépravation cachée au fond du cœur de Valérie, et il se croyait la dupe de quelque mystification. En passant sur le pont royal, il vit son existence si vide, si bien finie, si embrouillée par les affaires financières, qu'il fut sur le point de céder à la mauvaise pensée qui lui vint de jeter Crevel à la rivière et de s'y jeter après lui. Arrivé rue du Dauphin, qui dans ce temps n'était pas encore élargie, Crevel s'arrêta devant une porte bâtarde. Cette porte ouvrait sur un long corridor pavé en dalles blanches et noires, formant péristyle, et au bout duquel se trouvait un escalier et une loge de concierge éclairée par une petite cour intérieure, comme il y en a tant à Paris. Cette cour, mitoyenne avec la propriété voisine, offrait la singulière particularité d'un partage inégal. La petite maison de Crevel, car il en était propriétaire, avait un appendice à toiture vitrée, bâti sur le terrain voisin, et grevé de l'interdiction d'élever cette construction, entièrement cachée à la vue par la loge et par l'encombrement de l'escalier. Ce local, comme on en voit tant à Paris, avait longtemps servi de magasin, d'arrière-boutique et de cuisine à l'une des deux boutiques situées sur la rue. Crevel avait détaché de la location ses trois pièces du rez-de-chaussée et Grindot les avait transformées en une petite maison économique. On y pénétrait de deux manières, d'abord par la boutique d'un marchand de meubles, à qui Crevel la louait à bas prix et au mois, afin de pouvoir le punir en cas d'indiscrétion, puis par une porte cachée dans le mur du corridor assez habilement pour être presque invisible. Ce petit appartement, composé d'une salle à manger, d'un salon et d'une chambre à coucher, éclairé par en haut, partie chez le voisin, partie chez Crevel, était donc à peu près introuvable. À l'exception du marchand de meubles d'occasion, les locataires ignoraient l'existence de ce petit paradis. La portière, payée pour être la complice de Crevel, était une excellente cuisinière. Monsieur le maire pouvait donc entrer dans sa maison économique et en sortir à toute heure de nuit sans craindre aucun espionnage. Le jour, une femme mise comme se mettent les Parisiennes pour aller faire des emplettes et munie d'une clé ne risquait rien à venir chez Crevel. Elle observait les marchandises d'occasion, elle en marchandait, elle entrait dans la boutique et la quittait sans exciter le moindre soupçon si quelqu'un la rencontrait. Lorsque Crevel eut allumé les candélabres dans le boudoir, le baron fut tout étonné du luxe intelligent et coquet déployé là. L'ancien parfumeur avait donné carte blanche à Grindot, et le vieil architecte s'était distingué par une création du genre Pompadour, qui, d'ailleurs, coûtait 60 000 francs. « Je veux, avait dit Crevel à Grindot, qu'une duchesse entrant là soit surprise. » Il avait voulu le plus bel Éden parisien pour y posséder son Ève, sa femme du monde, sa Valérie, sa duchesse. « Il y a deux lits !» dit Crevel à Hulot en montrant un divan d'où l'on tirait un lit comme on tire le tiroir d'une commode. « En voici un, l'autre est dans la chambre. Ainsi, nous pouvons passer ici la nuit tous les deux. »« Les preuves !» dit le baron.
Crevel prit un bougeoir et mena son ami dans la chambre à coucher où, sur une causeuse, Hulot vit une robe de chambre magnifique appartenant à Valérie et qu'elle avait portée rue Vanneau,
pour s'en faire honneur avant de l'employer à la petite maison Crevel. Le maire fit jouer le secret d'un joli petit meuble, en marqueterie appelé « Bonheur du jour », y fouilla, saisit une lettre et la tendit au baron.
« Tiens, lis !»
Le conseiller d'État lut ce petit billet écrit au crayon.
« Je t'ai vainement attendu, vieux rat. Une femme comme moi n'attend jamais un ancien parfumeur. Il n'y avait ni dîner commandé, ni cigarette. Tu me payeras tout cela. »
« Est-ce bien son écriture ?»«
Mon Dieu ! » dit Tullo en s'asseyant accablé. « Je reconnais tout ce qui lui a servi. Voilà ses bonnets et ses pantoufles. Ah ça, voyons, depuis quand ?»
Crevel fit signe qu'il comprenait et empoigna une liasse de mémoire dans le petit secrétaire en marqueterie.
« Vois, mon vieux, j'ai payé les entrepreneurs en décembre 1838. En octobre, 2 mois auparavant, cette délicieuse petite maison était étrennée. »
Le conseiller d'État baissa la tête.
« Comment diable faites-vous? Car je connais l'emploi de son temps, heure par heure. »
« Et la promenade aux Tuileries ?»
dit Crevel en se frottant les mains et jubilant.
« Eh bien, » reprit Hulot hébété.
« Ta soi-disant maîtresse vient aux Tuileries, elle est censée s'y promener de 1 heure à 4 heures, mais crac, en 2 temps elle est ici. Tu connais Molière? Eh bien, baron, il n'y a rien d'imaginaire dans ton intitulé. »
Hulot, ne pouvant plus douter de rien, resta dans un silence sinistre. Les catastrophes poussent tous les hommes forts et intelligents à la philosophie. Le baron était, moralement, comme un homme qui cherche son chemin la nuit dans une forêt. Ce silence morne, le changement qui se fit sur cette physionomie affaissée, tout inquiéta Crevel qui ne voulait pas la mort de son collaborateur.
« Comme je te disais, mon vieux, nous sommes manche à manche. Jouons la belle. Veux-tu jouer la belle, voyons, au plus fin. »«
Pourquoi ?» se dit Hulot en se parlant à lui-même. « Sur 10 belles femmes, y en a-t-il au moins 7 de perverses ?»
Le baron était trop en désarroi pour trouver la solution de ce problème. La beauté, c'est le plus grand des pouvoirs humains. Tout pouvoir sans contrepoids, sans entrave, autocratique, mène à l'abus, à la folie. L'arbitraire, c'est la démence du pouvoir. Chez la femme, l'arbitraire, c'est la fantaisie.
Tu n'as pas à te plaindre, mon cher confrère. Tu as la plus belle des femmes, et elle est vertueuse.
Je mérite mon sort, se dit Hulot. J'ai méconnu ma femme, je la fais souffrir, et c'est un ange. Oh, ma pauvre Adeline, tu es bien vengée. Elle souffre, seule, en silence. Elle est digne d'adoration. Elle mérite mon amour, je devrais, car elle est admirable encore, blanche et redevenue jeune fille. Mais a-t-on jamais vu femme plus ignoble, plus infâme, plus scélérate que cette Valérie ?
C'est une vaurienne, dit Crevel, une coquine à fouetter sur la place du Châtelet. Mais mon cher Canillac, si nous sommes juste au Corbleu, maréchal de Richelieu, Trumeau, Pompadour, du Barry, Rouet et tout ce qu'il y a de plus 18e siècle, nous n'avons plus de lieutenant de police.
Comment se faire aimer ? Se demandait Hulot sans écouter Crevel.
C'est une bêtise à nous autres de vouloir être aimés, mon cher,
dit Crevel.
Nous ne pouvons être que supportés. « Car Madame Marneffe est 100 fois plus rouée que Josépha. »«
Et avide, elle me coûte 192 000 francs !» s'écria Hulot.
« Et combien de centimes ?»
demanda Crevel, avec l'insolence du financier, en trouvant la somme minime.
« On voit bien que tu ne l'aimes pas !» dit mélancoliquement le baron.
« Moi, j'en ai assez !» répliqua Crevel. « Car elle a plus de 300 000 francs à moi. »«
Où est-ce ? Où tout cela passe-t-il ? »
dit le baron en se prenant la tête dans les mains.
« Si nous nous étions entendus, comme ces petits jeunes gens qui se cotisent pour entretenir une lorette de 2 sous, elle nous aurait coûté moins cher. »«
C'est une idée, » repartit le baron, « mais elle nous tromperait toujours, car mon gros père, que penses-tu de ce Brésilien ? »
Ah, vieux lapin, tu as raison. Nous sommes jouvés comme des actionnaires, dit Crevel. Toutes ces femmes-là sont des commandites.
C'est donc elle, dit le baron, qui t'a parlé de la lumière sur la fenêtre.
Mon bonhomme, reprit Crevel en se mettant en position. Nous sommes floués. Valérie est une... Elle m'a dit de te tenir ici, j'y vois clair. Elle a son brésilien. Ah, je renonce à elle, car si vous lui teniez les mains, elle trouverait moyen de vous tromper avec les pieds. Tiens, c'est une infâme, une rouée.
Elle est au-dessous des prostituées, dit le baron.
Josépha, Jenny Cadine, étaient dans leur droit en nous trompant. Elles font métier de leur charme, elles. Mais elle, qui fait la sainte, la prude, dit Crevel. Tiens, retourne à ta femme, car tu n'es pas bien dans tes affaires. On commence à causer de certaines lettres de change souscrites à un petit usurier dont la spécialité consiste à prêter aux lorettes un certain Vauvinet. Quant à moi, me voilà guérie des femmes comme il faut. D'ailleurs, à nos âges, quel besoin avons-nous de ces drôlesses qui, je suis franc, ne peuvent pas ne point nous tromper. Tu as des cheveux blancs, des fausses dents, baron. Moi, j'ai l'air de Silène. Je vais me mettre à amasser. L'argent ne trompe point. Si le trésor s'ouvre tous les 6 mois pour tout le monde, il vous coûte au moins des intérêts, et cette femme en coûte. Avec toi, mon cher confrère, Gubetta, mon vieux complice, je pourrais accepter une situation choc-nosso, non philosophique. Mais un Brésilien qui, peut-être, apporte de son pays des denrées coloniales suspectes.
La femme, dit Tullot, est un être inexplicable.
Je l'explique, dit Crevel. Nous sommes vieux, le Brésilien est jeune et beau.
Oui, c'est vrai, dit Tullot. Je l'avoue, nous vieillissons. Mais mon ami, comment renoncer à voir ces belles créatures se déshabillant, roulant leurs cheveux, nous regardant avec un fin sourire à travers leurs doigts quand elles mettent leurs papillotes, faisant toute leur mine, débitant leurs mensonges et se disant peu aimées quand elles nous voient harassées par les affaires et nous distrayant malgré tout.
Oui, ma foi, c'est la seule chose agréable de la vie, s'écria Crevel. Ah, quand un minois vous sourit et qu'on vous dit « Mon bon chéri, sais-tu combien tu es aimable ? Moi, je suis sans doute autrement faite que les autres femmes qui se passionnent pour de petits jeunes gens à barbe de bouc, des drôles qui fument et grossiers comme des laquais, car leur jeunesse leur donne une insolence. Enfin, ils viennent, ils vous disent bonjour et s'en vont. Moi, que tu soupçonnes de coquetterie, je préfère à ces moutards les gens de 50 ans. On garde ça longtemps. C'est dévoué, ça sait qu'une femme se retrouve difficilement, et ils nous apprécient. Voilà pourquoi je t'aime, grand scélérat. »
Et elles accompagnent ces espèces d'aveux, de minauderie, de gentillesse, de...
Ah, c'est faux comme des programmes d'hôtel de ville.
Le mensonge veut souvent mieux que la vérité, dit Tullot en se rappelant quelques scènes charmantes évoquées par la pantomime de Crevel qui singeait Valérie. On est forcé de travailler le mensonge, de coudre des paillettes à des habits de théâtre.
Et puis, enfin, on les a, ces menteuses, dit brutalement Crevel.
Valérie est une fée, cria le baron. Elle vous métamorphose un vieillard en jeune homme.
Ah oui, reprit Crevel. C'est une anguille qui vous coule entre les mains, mais c'est la plus jolie des anguilles, blanche et douce comme du sucre, drôle comme Arnal. Et des inventions. Ah !
Oh oui, elle est bien spirituelle, s'écria le baron, ne pensant plus à sa femme. Les deux confrères se couchèrent les meilleurs amis du monde, en se rappelant une à une les perfections de Valérie, les intonations de sa voix, ses chatteries, ses gestes, ses drôleries, les saillies de son esprit, celles de son cœur, car cet artiste en amour avait des élans admirables, comme les ténors qui chantent un air mieux un jour que l'autre. Et tous les deux ils s'endormirent, bercés par ces réminiscences tentatrices et diaboliques, éclairés par les feux de l'enfer. Le lendemain, à 9 heures, Hulot parla d'aller au ministère. Crevel avait affaire à la campagne. Ils sortirent ensemble et Crevel tendit la main au baron en lui disant « Sans rancune, n'est-ce pas ? Car nous ne pensons plus ni l'un ni l'autre à Madame Marneffe. » « Oui, c'est bien fini, » répondit Hulot en exprimant une sorte d'horreur. À 10h30, Crevel grimpait 4 à 4 l'escalier de Madame Marneffe. Il trouva l'infâme créature, l'adorable enchanteresse, dans le déshabillé le plus coquet du monde, mangeant un joli petit déjeuner fin en compagnie du baron Henri Montes de Montejanos et de Lisbeth. Malgré le coup que lui porta la vue du Brésilien, Crevel pria Madame Marneffe de lui donner 2 minutes d'audience. Valérie passa dans le salon avec Crevel.
« Valérie, mon ange !» dit l'amoureux Crevel. « Monsieur Marneffe n'a pas longtemps à vivre. Si tu veux m'être fidèle, à sa mort, nous nous marierons. Songe-y, je t'ai débarrassé de Hulot. Ainsi, vois si ce Brésilien peut valoir un maire de Paris, un homme qui, pour toi, voudra parvenir aux plus hautes dignités et qui, déjà, possède 80 et quelques 1000 livres de rente.
« On y songera, » dit-elle. « Je serai rue du Dauphin à 2 heures et nous en causerons, mais soyez sage et n'oubliez pas le transfert que vous m'avez promis hier. » Elle revint dans la salle à manger, suivie de Crevel qui se flattait d'avoir trouvé le moyen de posséder à lui seul Valérie. Mais il aperçut le baron Hulot, qui pendant cette courte conférence était entré pour réaliser le même dessein. Le conseiller d'État demanda, comme Crevel, un moment d'audience. Madame Marneffe se leva pour retourner au salon, en souriant au Brésilien, comme pour lui dire « Ils sont fous, ils ne te voient donc pas ?»«
Valérie, » dit le conseiller d'État, « mon enfant, ce cousin est un cousin d'Amérique. »«
Oh, assez !» s'écria-t-elle en interrompant le baron. « Marneffe n'a jamais été, ne sera plus, ne peut plus être mon mari. Le premier, le seul homme que j'ai aimé est revenu. Sans être attendu, ce n'est pas ma faute. Mais regardez bien Henri et regardez-vous. Puis demandez-vous si une femme, surtout quand elle aime, peut hésiter. Mon cher, je ne suis pas une femme entretenue. À compter d'aujourd'hui, je ne veux plus être comme Suzanne entre 2 vieillards. Si vous tenez à moi, vous serez, vous et Crevel, nos amis. Mais tout est fini, car j'ai 26 ans. Je veux être à l'avenir une sainte. Une excellente et digne femme, comme la vôtre.
C'est ainsi, dit Hulot. Ah, voilà comment vous m'accueillez, lorsque je venais, comme un pape, les mains pleines d'indulgence. Eh bien, votre mari ne sera jamais chef de bureau, ni officier de la Légion d'honneur.
C'est ce que nous verrons, dit Madame Marneffe, en regardant Hulot d'une certaine manière.
Ne nous fâchons pas, reprit Hulot au désespoir. « Je viendrai ce soir, et nous nous entendrons. »«
Chez Lisbeth, oui. »«
Eh bien, » dit le vieillard amoureux, « chez Lisbeth. »
Hulot et Crevel descendirent ensemble sans se dire un mot jusque dans la rue. Mais sur le trottoir, ils se regardèrent et se mirent à rire tristement.
« Nous sommes 2 vieux fous, » dit Crevel.
« Je les ai congédiés, » dit Madame Marneffe à Lisbeth en se remettant à table. « Je n'ai jamais aimé, je n'aime et n'aimerai jamais que mon jaguar, » ajouta-t-elle en souriant à Henri Montes. « Lisbeth, ma fille, tu ne sais pas ? Henri m'a pardonné les infamies auxquelles la misère m'a réduite. »«
C'est ma faute, » dit le Brésilien, « j'aurais dû t'envoyer 100 000 francs. »«
Pauvre enfant, » s'écria Valérie, « j'aurais dû travailler pour vivre, mais je n'ai pas les doigts faits pour cela, » demanda Lisbeth. Le Brésilien s'en alla, l'homme le plus heureux de Paris.